Dialogue avec l'archange Raphaël pour la naissance du culte de l'air. En septembre 2009, après 18 ans de célébration du feu de l'archange Michaël dans la lignée des fils du soleil, après avoir transmis la grande méthode de la ronde des archanges et restauré la nation essénienne, Olivier Manitara s'approchait de l'archange Michaël pour ouvrir la porte du monde divin et poser sur la terre et dans les éthers le culte du feu. Cet événement fut fondamental pour la tradition essénienne. Dans les semaines précédant sa célébration, l'archange Michaël donna ses instructions à Olivier Manitara. Au cours des 4 célébrations à venir, les Esséniens devaient ouvrir au-dessus de chacun des mondes des éléments la porte du monde divin et poser sur la terre les 4 cultes sacrés et les 4 sceaux incarnant l'omniprésence divine. L'archange Michaël fournit de nombreuses précisions concernant l'accomplissement de ce grand œuvre. Il parla de la fin d'un monde et de la nécessité de l'émergence d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle culture et d'une nouvelle façon d'être au monde. Des centaines d'Esséniens se sont engagés dans la réalisation de cette œuvre du bien commun. L'année 2009-2010 marquait le 2e jubilé de la nation essénienne contemporaine. Elle correspondait à la 7e année de pratique de la ronde des archanges. Tout fut accompli suivant les instructions de l'archange Michaël. Les Esséniens s'assemblèrent pour ouvrir la porte du monde divin dans le feu. Ils posèrent le sceau du travail et instaurèrent le culte du feu sur des terres esséniennes. Des prêtres et des vestales furent consacrés afin d'entretenir ce culte jour et nuit, maintenant une présence permanente, vivante et pure, de la divinité sur la terre et dans l'âme de l'humanité. Au solstice d'hiver suivant la célébration de l'archange Michaël, les Esséniens se présentèrent devant le grand archange Gabriel afin d'ouvrir la porte du monde de l'eau et d'établir le culte de la divinité de cet élément. Le sceau de la famille fut posé et activé par les rites magiques. Puis se déroula la célébration de l'archange Raphaël, à l'occasion de laquelle Olivier Manitara et les Esséniens ouvrirent la porte du monde divin, permettant à la divinité de l'air de se manifester et d'être honorée dans une structure établie. Les psaumes qui composent les évangiles esséniens sont les fruits du dialogue établi entre les archanges et leur peuple, assemblés pour les honorer, suivant la sagesse ancestrale et les rites sacrés. Ces recueils de textes sacrés s'inscrivent dans la volonté historique d'un peuple qui se lève autour d'une tradition pour s'efforcer d'ouvrir un autre chemin, d'écrire un autre futur pour la terre et l'humanité tout entière. C'est une œuvre titanesque, accomplie par une poignée d'hommes et de femmes qui, par la seule force de leur idéal et de leur tradition, veulent faire peser la balance du monde du côté de l'harmonie, de la paix, de la sagesse, de l'amour et de la vie pour le tout. Les circonstances exceptionnelles de cette année de jubilé ont décidé le Suprême Conseil de la Nation essénienne à offrir une partie du dialogue théurgique qu'Olivier Manitara eut avec l'archange Raphaël dans les semaines précédant sa célébration. Ce dialogue, d'un fils avec son père, et par lui, d'un peuple avec son Dieu, pour l'établissement et la restauration des 4 cultes et des 4 éléments sur la terre, s'inscrit dans la plus pure tradition de l'alliance que l'Éternel a entretenue avec son peuple de prêtres à travers les âges. Il est la manifestation d'une révélation universelle et continue au-delà des frontières, des époques, des cultures et des religions. Nous souhaitons que ceux qui liront ces lignes y trouvent un réconfort, un espoir, une inspiration. L'archange Raphaël dit: tu m'honoreras en délimitant un espace consacré. Cet espace sera un violet pur et libéré du monde des hommes. Dans cet espace, la sagesse de la mère, la tradition des enfants de la lumière et la royauté du Père seront proclamées. Tous ceux et celles qui entreront dans cet espace devront s'incliner respectueusement devant la sagesse de la mère, la pure tradition des enfants de la lumière et la royauté du Père. Ils devront accepter la discipline sacrée et l'accomplir en tout point. Dans cet espace, tu me constitueras un corps d'intelligence, de force et d'éther, afin que je puisse venir me manifester au milieu des Esséniens assemblés, toucher la terre et l'humanité. Ce corps sera constitué de symboles, d'écritures magiques qui devront être vivants dans plusieurs mondes. Ils devront être activés par le corps, la volonté, les sens, la pensée, la conscience et l'âme des Esséniens dans la Sainte Assemblée. Au centre de cet espace sacré, tu placeras une pyramide constituée de 4 bâtons, à l'intérieur de laquelle tu placeras une pierre verte consacrée, sur laquelle je pourrai prendre appui. Cette pierre qui accueillera ma présence sera sacrée. Elle sera une pierre de respiration, de mémoire et de guérison. Tu en prendras grand soin. Tu pourras disposer d'autres pierres vertes autour de ma pyramide. Je les consacrerai pour la célébration de la ronde des archanges et pour que vous puissiez les placer dans vos temples, dans les cercles d'études esséniens et sur les hauts sommets de la terre. J'ai offert à la nation essénienne la pierre verte, qui sera la pierre de l'immortalité et de la mémoire de la tradition. Dans chaque village essénien, vous installerez une de ces pierres consacrées par ma présence et cultiverez la conscience que la mémoire est vivante et agissante dans tous les mondes. Et ce faisant, vous vivrez en conformité avec la tradition des sages et des esprits justifiés afin de garder la terre pure et vierge de toute mauvaise mémoire qui conduit à la désolation, l'enfermement, la maladie. Vous vous inclinerez devant cette pierre, non pas comme des idolâtres et des superstitieux, mais par l'intelligence et la compréhension que la mémoire est précieuse et que vous devez en prendre soin par votre façon de vivre. La pierre verte est ma pierre, la pierre qui respire dans tous les mondes et qui garde en elle la mémoire de ce qui est divin. C'est sur cette pierre que vous construirez l'édifice de vos vies et de vos futurs. Devant la pyramide, tu placeras une flamme provenant de la flamme veillée jour et nuit pendant 7 années par les prêtres et les vestales sur les terres esséniennes. Autour de la pyramide ainsi aménagée, tu disposeras en triangle les temples des 3 autres archanges. Tu placeras leurs écritures magiques et leurs sceaux sacrés. Tu les invoqueras et activeras leur présence suivant les règles de l'art. Seuls les 4 grands archanges porteurs des 4 lettres du nom incommunicable du Père, lorsqu'ils sont assemblés, ont le pouvoir d'ouvrir la porte du monde divin et de permettre la célébration des cultes des 4 éléments sur la terre. Ils sont le trône du roi des rois, la ronde des archanges, l'arche d'alliance qui contient les plus hauts mystères. À côté de chaque temple, tu placeras un prêtre comme pilier de l'archange et porteur du bâton des maîtres. Chaque pilier sera soutenu et protégé par 2 prêtres. Ce groupe sera entouré d'un cercle magique afin de l'isoler de l'assemblée. Seuls des prêtres consacrés pourront pénétrer à l'intérieur de ce cercle. dans cet espace délimité, devant la base du triangle formé par les temples, tu disposeras un cercle plus petit avec, à l'intérieur, le drapeau de la nation essénienne. C'est sur ce talisman que tu te tiendras pour m'invoquer et parler avec moi. Ce drapeau représente la mère se manifestant à travers la sagesse de la tradition essénienne. Tu placeras sur chacune de ces quatre couleurs une écriture magique représentant l'un des quatre règnes de la mer. Ainsi, les représentants des pierres, des plantes, des animaux et des hommes seront présents, en harmonie avec la mer et toi. Tu devras te tenir dans cette harmonie et l'incarner au nom de la nation essénienne et de chaque essénien. À chaque fois que tu te présenteras devant moi, tu te tiendras dans l'alliance avec la mer, car le monde divin ne veut pas simplement parler avec un homme, aussi sage soit-il. Il ne veut parler qu'avec le représentant de tous les hommes et des quatre règnes de la terre. Il veut s'adresser à celui qui a su être un avec la mer, sa sagesse et son amour. Autour de ce grand cercle et de cet espace sacré se tiendra l'assemblée des Esséniens et des amis des Esséniens, venus soutenir de leur présence aimante le travail d'ouverture de la porte et du culte de la divinité de l'air. Pendant 4 jours, tu te présenteras 12 fois devant moi et m'invoqueras dans le respect de la loi et des commandements de la tradition. Tu me construiras ainsi un corps dans les éthers de la terre et veilleras à la pureté et à la vérité de tous les travaux accomplis. Chaque Essénien ou ami des Esséniens qui entrera dans cet espace devra le faire en cultivant le sens du sacré, le profond respect, la lumière de l'étude, la juste discipline, la posture de la méditation, le contrôle du corps et des gestes, le silence et l'éveil conscient de la vie intérieure. L'assemblée veillera jour et nuit et prendra soin de l'atmosphère sacrée du temple. Par ce travail ininterrompu, par la ronde des archanges, par votre fidélité à la tradition essénienne, je viendrai au milieu de vous et vous bénirai, suivant la promesse de l'alliance passée avec vos pères et vos mères, restez fidèles aux envoyés du Père. Vous cultiverez la conscience que l'homme vit 2 vies. Il vit avec lui-même et a besoin de se rencontrer dans son être intérieur, mais il vit aussi collectivement et doit chercher à l'extérieur ce qui peut nourrir son être intérieur. Tout Essénien qui entre dans l'espace sacré du temple doit connaître ces 2 aspects de l'existence humaine et cultiver la volonté de s'éveiller et de se clarifier dans ces 2 aspects. L'air, l'éther sanctifié du temple, est le lieu privilégié de la rencontre avec le monde divin et de l'émergence de la nouvelle culture, du corps de la sagesse qui doit naître dans l'Essénien par son étude, sa dévotion, l'accomplissement des rites sacrés et son œuvre individuelle associée à une collectivité magique, vivante. C'est ainsi que la tradition s'individualise et peut reprendre une dimension collective. Ce sont là les secrets du souffle de la vie qui conduit à l'immortalité et le chemin que je veux offrir à la nation essénienne. L'air et terre du temple n'est pas seulement une atmosphère particulière, il est la présence du monde de la lumière éternelle qu'il est impossible pour moi de faire percevoir par une compréhension, une imagination et des sens humains. Le temple que vous allez constituer, le culte de l'air précieux que vous allez ouvrir, seront l'archétype de tous vos temples et de leur atmosphère emplie de divinité. C'est sur ce premier temple que vous bâtirez tous les autres. En posant le culte de Dieu dans l'air sur les terres esséniennes, Vous instituerez également des temples individuels des Esséniens, ainsi que les cercles d'études. Dans ces temples, vous prendrez soin de l'éther sacré du temple et de la présence divine. Ils seront des lieux d'études, de dévotion, d'initiation, de célébration des rites sacrés qui amènent la respiration, la bénédiction, la guérison pour l'humanité et la terre. Les cercles d'études esséniens seront des lieux d'études, de culture, de formation, d'éducation et d'action. Ils seront le prolongement du culte de l'air. Ainsi pourra se propager la lumière du savoir véritable qui éclaire, libère, console, guérit, ouvre un chemin grand et vaste. Ainsi, votre œuvre sera divine et bénéfique pour tous les êtres. Vous marcherez sur la terre des vivants, devant l'Éternel, et le chemin de l'immortalité sera ouvert pour vous. L'air que connaissent les hommes n'est qu'une infime partie de ce que peut être le souffle de l'esprit et de la vie. L'homme ne vit que 2% de son être dans le souffle de l'esprit. Olivier Manitara demande à l'archange Raphaël. Ô mon père Raphaël, tu es l'inspirateur sacré de toute culture de la lumière, de tout ce qui est juste et vrai, de tout ce qui conduit à la vie belle et conforme. Comment devons-nous célébrer ton culte de l'air et terre, empli de divinité? Tu procéderas comme pour les cultes du feu et de l'eau. Tu me construiras un temple dans lequel seuls des prêtres et des vestales de la troisième et de la quatrième marche de l'initiation pourront entrer. Dans ce temple, tu placeras ma pyramide, avec en son centre ma pierre consacrée. D'un côté de la pyramide, tu disposeras la statue de Mahat, la grande vérité, la manifestation visible du Dieu du savoir, de la gnose, de la connaissance directe. De l'autre côté, tu placeras la statue de la dévoreuse, celle qui représente le mensonge conduisant au recyclage et au néant. Raphaël est un monde supérieur en l'homme. Raphaël ne parle qu'aux sages, qu'aux initiés, qu'aux rois, qu'à ceux qui ont gravi la haute montagne de l'initiation, qui ont traversé les épreuves de l'ascension et qui se tiennent au sommet devant l'immensité glaciale. L'homme ne peut voir que la partie féminine de Raphaël, c'est-à-dire ce qu'il peut concevoir dans sa limitation. Raphaël est l'océan du savoir, une intelligence sans limite. Ce que l'homme peut concevoir est limité à la dualité des mondes. C'est pour manifester ma présence et mes commandements que les sols des temples furent constitués de damiers noirs et blancs. Le monde des hommes ne peut accéder à une compréhension supérieure que si une ombre révèle la lumière et qu'une lumière révèle l'ombre. Le savoir est constitué par la dualité d'une partie manifestée et d'une autre non manifestée. Au-delà de cette dualité, il n'y a qu'un seul principe qui vit dans un autre monde. L'homme n'y a pas accès, sauf s'il a su se présenter correctement devant la partie féminine qui incarne le visible de la vérité et montre également ce qui est caché et ne peut être visible. Raphaël est l'invisible qui se montre à travers le visible, mais son essence ne peut être visible. La vérité est la forme parfaite qui incarne ce qui n'a pas de forme. La non-forme se revêt d'un vêtement lui permettant d'apparaître et de se manifester, à l'image d'une femme qui met un enfant au monde. Dans ce sens, Mahat est la partie visible de Thoth, qui est la déification de Raphaël, le dieu du savoir. Maat, la vérité déifiée, est la partie visible du savoir divin, celle que les hommes peuvent approcher, appréhender, étudier, comprendre. Par la vérité visible, les sages et les initiés peuvent s'élever vers le savoir invisible. Telle est la clé de l'éducation et de l'envol dans les mondes de l'intelligence supérieure. Mais la vérité visible qui conduit vers la déification de l'invisible a sa contrepartie incarnée par la lumière trompeuse, par les apparences qui cachent le néant. La dévoreuse incarne ce qui attend le mensonge. Le sage, l'essénien, doit être conscient de ces deux aspects de la manifestation unique du monde visible. Le monde visible est une manifestation de la vérité et d'un savoir supérieur, mais en fonction de l'homme qui se présente devant eux, il peut devenir mensonge. La vérité conduit vers le savoir authentique qui fait apparaître les mondes invisibles sacrés et ouvre les portes de l'étude, de la dévotion, de l'accomplissement des rites, unissant le ciel et la terre, de la vie quotidienne conforme à la volonté des dieux. Le chemin de l'immortalité est alors ouvert. Le mensonge conduit à une vie fausse, à la mort et au recyclage. Entrer dans le temple de Raphaël, c'est se placer devant soi-même et déterminer ce que l'on est. Si tu es pur, tu verras devant toi la représentation de Maat, le savoir divin qui conduit à la perfection, et derrière Maat, tu verras Thoth. Si tu ne vois pas Maat, tu vois la dévoreuse, c'est-à-dire ce que tu es. Derrière la dévoreuse, il n'y a pas Thoth, il n'y a que le néant. La dévoreuse n'est pas négative en elle-même. Elle fait partie de ce visage de dualité qu'a revêtu l'homme et qui fait partie de son monde. L'homme a besoin de ce double aspect pour s'approcher d'un monde supérieur. En toutes les circonstances de sa vie, l'homme est confronté à cette dualité, à ces deux mondes. Par sa juste éducation, par sa bonne formation, il doit être capable de rendre conscient sa pensée et son être intérieur pour discerner exactement qui parle en lui. Est-ce Maat ou la dévoreuse? L'équilibre de la vie de l'homme et par voie de conséquence des mondes n'est possible que par une juste compréhension de soi-même par rapport aux deux divinités manifestées, Maat et la dévoreuse. Thoth, le savoir divin, l'unité parfaite, ne peut apparaître que si l'essénien voit en lui-même à la fois Maat et la dévoreuse. À ce moment-là, les mondes sont équilibrés parce que tout a été mis à sa juste place. L'ordre divin règne. Thoth est dans ta tête. Maat est dans ton cœur. La dévoreuse est dans ton ventre, recyclant tous les déchets et offrant l'énergie nécessaire pour qu'un monde supérieur émerge de la mort et du néant. Ainsi, ce n'est plus un monde supérieur qui est utilisé pour faire vivre le monde mortel de l'homme, mais c'est la vie quotidienne qui est utilisée pour faire vivre un monde supérieur. Lorsque l'homme a réalisé l'ordre céleste dans sa propre manifestation de vie, la lumière de l'intelligence, la gnose, le savoir universel des dieux, viennent habiter en lui et le revêtent de la royauté sur la terre et de l'immortalité dans le ciel. Si l'homme ne sait pas s'identifier, se positionner, il est pris dans le filet magique du mensonge, du faux, de l'illusion. La dévoreuse se place toujours devant lui, non pas pour l'empêcher d'entrer sur le chemin de l'immortalité, mais pour qu'il soit placé devant le miroir de sa conscience et se regarde tel qu'il est, percevant la conséquence de son être et de ses actes. L'Essénien doit savoir à qui il appartient, non pas dans des rêves, des illusions, des affirmations mensongères, mais dans la réalité de sa vie. Pour s'approcher de la vérité et percevoir tous les mondes, il faut être fort sur la terre et dans tous ses corps. Seul celui qui est correctement préparé peut s'approcher du savoir divin sans être détruit. Personne ne peut percevoir l'invisible sans support. Pour le percevoir d'une façon juste, il faut en établir la représentation fidèle dans le monde des formes, puis s'élever à travers elle vers une connaissance supérieure, de plus en plus fine, subtile, vraie. Je suis Raphaël, celui qui unit le ciel de l'intelligence à la terre de l'acte, proclamant l'unité vivante. Olivier pose cette question à l'archange. Ô mon père Raphaël, comment le culte du Dieu de l'air doit-il être célébré? Tu placeras dans mon temple deux chaudrons magiques, un devant la représentation de Maat et un devant la représentation de la dévoreuse. Ces deux chaudrons représentent deux mondes différents. Le premier est le chemin conduisant vers la sagesse et l'immortalité. La sagesse est pour les hommes, l'immortalité pour les dieux. L'autre chaudron est le chemin du recyclage, ce qui défait ce que l'homme a fait durant sa vie lorsqu'il a perdu son temps. Or, le temps est ce qui est précieux pour l'homme. Le perdre, c'est entrer dans le rien. Mon culte consiste à attraper toutes les pensées du monde des hommes présentes dans l'atmosphère de la nation essénienne pour la nettoyer et ramener l'équilibre dans l'âme de la terre. Les pensées devront être purifiées par les deux chaudrons et par les deux manifestations de la divinité. Dans le chaudron de la dévoreuse sera allumé un feu. Les cris, les désordres, les pollutions atmosphériques devront être appelés par le savoir-faire magique que possèdent les Esséniens. Ils seront déposés dans ce chaudron pour être consumés et retournés à leur origine, le néant. Les causes de tous ces maux seront ainsi annulées, allégeant le fardeau de l'humanité tout entière. Seuls des prêtres et des mages parfaitement initiés et formés pourront accomplir ce travail, qui sera d'une extrême difficulté. C'est comme manipuler un poison qui ne doit pas toucher la peau, ne doit pas entrer dans ses pores, sous peine d'empoisonnement. Tout ce qui est vrai, noble, pur, éternel, sage et qui appartient au monde des archanges sera mis dans le feu de la vie et offert à un monde supérieur comme une offrande sacrée. Dans le chaudron de Maat sera consumé l'encens le plus pur. L'offrande des impuretés à la dévoreuse sera faite pour calmer les démons assoiffés de sang et de destruction. L'offrande d'encens à Maat sera pour honorer la sagesse éternelle, vivante, pure, au-delà du monde des formes et du monde de l'homme. D'un côté, le monde invisible sera purifié et nettoyé de tout ce que l'homme y apporte par sa bêtise et son inconscience. De l'autre, il sera exalté, sanctifié et glorifié. Les hommes sont profondément attachés à leurs pensées, à leurs concepts, à leurs égrégores. La célébration de ce culte aura donc des conséquences pour l'humanité. En nettoyant le ciel de la nation essénienne, vous attraperez et consumerez les mauvaises pensées. Un grand nombre d'êtres ressentiront comme une perte d'identité, un désespoir, et devront accomplir tout un travail pour se reconstruire sur de nouvelles bases. Il est vital que les Esséniens accomplissent le culte de l'air, car il permettra un allègement au niveau mondial, une respiration, un équilibre. Aujourd'hui, les hommes ont perdu ce savoir-faire. Ils se laissent aller dans tous les domaines et ont atteint un degré de pollution extrême dans tous les mondes. Le culte de l'air est un service pour un monde supérieur, mais aussi une œuvre bénéfique pour l'humanité et tous les êtres. Un nouveau souffle pourra progressivement se faire sentir, non seulement parmi les Esséniens, mais aussi dans le monde entier. Les hommes pourront être plus légers, regarder le monde avec d'autres yeux, accueillir de nouvelles pensées, être plus détendus, plus calmes, plus proches de leur âme. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus faire cela par eux-mêmes. C'est aux Esséniens de les aider et de les dégager en accomplissant ce travail d'abord pour eux-mêmes, puis par répercussion magique, cela agira dans le monde entier. Les Esséniens ne doivent pas être passifs. Ils doivent étudier et appliquer le savoir pour le bien de tous. Il est fondamental de prendre sa vie en main et d'écrire la destinée de la Terre d'une façon dynamique et sage. Les Esséniens ont non seulement le droit mais le devoir de préserver la tradition des enfants de la lumière. Ils doivent également prendre soin de l'âme, de l'intelligence, des mondes invisibles et des éthers. La pollution de votre monde est physique, psychique, mentale, touchant même l'intelligence, la conscience, l'âme et les mondes spirituels. C'est pourquoi il est plus que nécessaire de guérir et de nettoyer ces mondes en mettant tous ces empoisonnements dans le feu de la dévoreuse. Ceux qui vivent avec ces pensées, ces mondes en décomposition, ces lumières trompeuses, verront leur vie s'arrêter, devenir inutile, sans valeur. Ils n'auront alors plus d'autre choix que de prendre un autre chemin et de se transformer. D'une façon plus générale, le culte de l'air servira à rétablir une respiration plus large et plus vivante, car aujourd'hui les hommes étouffent de leurs propres bêtises, de leurs pensées éteintes, de leurs sentiments enfermants. Ils atrophient leur sphère respiratoire. Ainsi, ce culte apportera un grand remède et un grand soulagement, non seulement aux Esséniens, mais à toute l'humanité et à la Terre. Parmi tous les hommes de la Terre, seuls les Esséniens ont aujourd'hui le savoir-faire magique nécessaire pour accomplir une telle œuvre. La majeure partie des humains ne peuvent même plus en comprendre l'utilité. C'est pour eux un monde abstrait et lointain. Les prêtres et les vestales qui accompliront le service du culte de l'air devront être endurants et disciplinés tous les jours de leur vie. Ils devront éveiller le sacré, l'action et la vie dans les mondes invisibles. Leur vie terrestre devra être calme, presque endormie. Leur vie intérieure invisible devra être vivante, concentrée sur l'enseignement réel et pur. L'étude de l'enseignement et son activation dans les mondes invisibles devront être leur discipline quotidienne, au point que leur vie physique soit comme un corps en méditation, droit et immobile, mais accueillant la vie intense de l'esprit. Alors, leur corps ne sera plus enchaîné par le rythme de la vie du monde des hommes, mais porté par celui de la pratique des quatre cultes et la volonté de célébrer l'alliance des mondes, l'amour entre tous les êtres, l'union avec les intelligences divines, jusqu'à poser les sceaux des archanges et leurs écritures sur la terre dans la pureté et la vérité. Par le culte de l'air, pourront naître sur toute la terre des cercles d'études esséniens pour amener une nouvelle culture, un nouveau souffle et ouvrir le chemin de l'immortalité. Olivier Manitara pose cette question. Père Raphaël, c'est un immense travail que tu demandes, une œuvre grande, belle, noble, mais difficile à accomplir. Ce n'est pas une œuvre qu'un homme peut accomplir seul, mais une œuvre collective. Vous devez vous organiser, non seulement pour l'accomplir vous-même, ensemble, mais également pour accueillir tous ceux qui vont vouloir vous aider, s'engager, participer et profiter de cette incroyable opportunité qui vous est donnée d'œuvrer pour le bien de tous en harmonie avec les mondes divins. Pour poser les sceaux du monde des archanges sur la terre, vous devez être une véritable communauté. Ce travail que vous devez accomplir collectivement est l'occasion de créer des supports concrets pour l'étude de l'enseignement, ainsi que des cercles d'études esséniens où pourront être pratiqués les rites méditatifs et sacrés. Honorez votre tradition essénienne, rendez-la puissante sur la terre en accomplissant l'œuvre de la lumière. Mais sachez que même une tradition comme la vôtre ne pourra accomplir une telle œuvre s'il n'y a pas l'alliance vivante et réelle avec les mondes supérieurs et avec la mère. Cette alliance, vous l'avez, alors organisez-vous pour la mettre en œuvre puissamment. L'écriture que vous devez réaliser a été pensée par une intelligence supérieure à l'homme. Elle a été révélée à la nation essénienne et doit être à présent accomplie. Vous ne devez pas ménager vos efforts, mais mettre tous les moyens en place pour y parvenir. Cette œuvre doit être accomplie par des individualités vivantes, s'unissant pour réaliser une œuvre collective capable d'apporter la grande bénédiction à toute l'humanité et à la terre. Unissez-vous dans l'intelligence, le dépassement de soi et agissez ensemble dans l'harmonie et la conscience des mondes supérieurs. Ainsi, vous pourrez l'accomplir. Olivier Manitara posa cette question. Ô mon père Raphaël, noble est le chemin que tu ouvres aux Esséniens, et c'est avec joie que nous voulons nous y engager pour que nos vies soient utiles. À l'heure où tout s'effondre et disparaît sur la terre, la tradition de la lumière sera-t-elle sauvée? La libération des âmes passe par la constitution du corps des traditions. À chaque fois que la tradition de la lumière s'incarne, à travers une tradition, l'occasion est donnée à des âmes de trouver le chemin de l'envol et de la libération. À l'époque de l'Égypte des pharaons, un très grand nombre d'âmes étaient liées à la tradition et beaucoup d'entre elles ont trouvé le chemin de la lumière. Ces âmes se sont envolées, mais bien d'autres ne sont pas allées jusqu'au bout et sont restées en arrière, attendant que la tradition revienne sur la terre. Les êtres qui se présentent aujourd'hui aux portes de la nation essénienne et des chemins qu'elle ouvre sont des âmes errantes, conscientes du chemin, qui essaient de retrouver la porte menant à l'accomplissement ultime et à la délivrance. Il y a un monde instable, et au-delà se trouve la libération. Entre les deux, se situe le passeur d'âme, celui qui ouvre le chemin et permet d'entrer dans l'évolution consciente. Si les deux mondes sont reliés par le passeur d'âme, le temps n'est plus arrêté, les âmes connaissent alors une continuité de conscience, une mémoire immortelle, elles reprennent leur activité, leur chemin, même après la mort. Dans l'Égypte des pharaons, ces secrets étaient connus des sages. Seuls ceux qui avaient fait une œuvre pour la manifestation de la tradition pouvaient s'envoler. Les autres restaient en arrière, ils devenaient des âmes errantes et devaient attendre une nouvelle manifestation de la tradition pour pouvoir reprendre leur chemin. Une telle âme est hors du temps. Elle peut attendre des centaines, voire des milliers d'années. Aujourd'hui encore, des âmes incarnées dans l'Égypte ancienne demeurent dans l'errance, attendant d'entrer dans le corps de la tradition pour avoir une opportunité d'évolution. Certaines de ces âmes ont pourtant déjà vu passer des prophètes et des missionnaires du monde divin, mais elles n'ont pas su saisir leur chance et monter dans le bateau de lumière de la tradition. Il ne suffit donc pas d'être en attente de la lumière. Il faut aussi être correctement préparé pour pouvoir saisir l'opportunité de la lumière lorsqu'elle se présente. Pour entrer sur le chemin de l'immortalité, il faut avoir accumulé une certaine part d'expérience, de sagesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes non incarnées qui se tiennent à la frontière qui leur permettrait d'être libérées et d'entrer dans l'immortalité. C'est pourquoi le monde est lourd, désespéré. Toutes ces âmes savent que c'est la fin d'un cycle. Toutes veulent trouver la libération et insistent, pèsent sur le monde des hommes. Mais les hommes, eux, ne sont pas nécessairement conscients de tout cela. Et bien souvent, malheureusement, ils ne vivent pas avec leur âme. Beaucoup d'âmes ont travaillé sur elles et ont accumulé l'expérience des âges. Elles cherchent à se libérer et à faire fructifier leur capital pour entrer dans ce monde d'immortalité. Le culte de l'air, l'enseignement essénien et l'établissement des cercles d'études esséniens peuvent réellement ouvrir un chemin pour toutes ces âmes. Olivier Manitara demande à l'archange « Ô mon père Raphaël, s'il n'y a plus de tradition vivante sur la terre, qu'adviendra-t-il de toutes ces âmes ?» S'il n'y a plus de tradition vivante sur la terre, il n'y aura plus de chemin pour elles. Elles seront perdues. Aujourd'hui, la tradition de la lumière est vivante chez les Esséniens. À elles de savoir saisir l'opportunité. Sur terre, les Esséniens sont très peu nombreux, presque insignifiants. La nation essénienne sera ce que les hommes en font. Si les hommes aiment la lumière, les Esséniens seront puissants et nombreux sur la terre. Si les hommes n'aiment pas la lumière, les Esséniens seront faibles sur la terre. Mais sache que cette vision ne concerne que le monde des hommes, car l'existence et la manifestation du monde divin sur la terre ne sont absolument pas déterminées par le nombre d'hommes, mais par la volonté du monde divin. Les hommes acceptent ou refusent cette volonté. C'est leur choix. C'est ce choix qui détermine leur destinée. Jésus et d'autres étaient comme toi des missionnaires du monde divin. Très peu d'hommes les ont entourés. Ils n'ont pas été reconnus et la plupart ont été rejetés et mis à mort par les hommes. Jésus était insignifiant et faible dans le monde des hommes. Sa présence a pourtant éclairé et libéré un grand nombre d'âmes et elle continue à le faire. Aujourd'hui, grâce à sa présence, des âmes sont prêtes à terminer leur cycle d'évolution et à entrer dans une autre vie, une vie où l'âme est souveraine, passe avant le corps et le monde mortel. Dans le monde des hommes, les cathares étaient beaucoup plus puissants que Jésus. Ils ont pourtant libéré beaucoup moins d'âmes parce qu'ils ont été extrêmement agressés et qu'ils ont subi énormément de souffrances et de destructions. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de la tradition et les dépositaires de l'Alliance. Vous pouvez contribuer à libérer un grand nombre d'âmes si vous vous organisez et saisissez l'opportunité. Ô mon père Raphaël, lorsque tu dis que c'est la fin, de quoi parles-tu? C'est la fin de l'humanité telle qu'elle a existé, de l'homme vivant avec son âme. L'ère technologique qui commence marque le début d'une humanité sans âme. Les hommes qui appartiendront à ce monde n'auront plus la possibilité de connaître un chemin d'évolution vers le royaume divin. Ce chemin sera totalement abstrait et fermé. Les hommes seront enchaînés dans les profondeurs de la matière et c'est là qu'ils vivront. Peut-être qu'un jour, un être ira les chercher. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre de la destinée de l'humanité. Aujourd'hui, la nation essénienne est présente sur la terre pour emmener vers un accomplissement tous ceux et celles qui ont déjà travaillé et réalisé des œuvres pour la lumière, afin de créer une nouvelle humanité qui gardera un lien vivant avec l'âme. Puis, dans un avenir plus ou moins proche, peut-être qu'un maître se lèvera au sein de cette nouvelle humanité pour entrer dans les profondeurs de la matière et libérer les âmes qui seront restées en arrière. Ô mon père Raphaël, peux-tu encore m'offrir une sagesse pour la pratique du culte de Dieu l'air? Lorsque l'homme vient sur la terre pour y faire ses expériences, il reçoit le souffle de la vie. Ce souffle ne vient pas du Père, mais de Raphaël, qui apporte à l'homme la nouvelle vie dans son être subtil, plus haut, dans son mystère sacré. J'appelle la vie dans le corps de l'homme. Si l'homme sait suivre ce souffle, il rencontrera le Père du souffle, l'origine de son âme, de son être, le monde divin. Alors il entrera sur le chemin de la résurrection et de l'immortalité. Il entrera dans l'école de la sagesse et se créera un autre corps par l'étude de la haute pensée divine. Il est dit que Raphaël est le père de l'air et de la pensée. La pensée est associée à l'air parce qu'elle voyage et véhicule des mondes, des influences. En cela, elle est comme l'air, elle est l'âme de l'air. Raphaël est la résurrection et la vie, insufflée dans la bouche de l'homme et expirée par ses narines. Je ne suis pas liée au souffle de la mort. Si tu rencontres Raphaël, tu deviens vivant. Si tu ne le rencontres pas, tu ne connaîtras pas la vie. Tu peux étudier la sagesse, la philosophie, les religions. Si je ne t'anime pas de mon souffle, rien de tout cela ne te sera utile et réel, et ce qui vient du monde de l'homme restera stérile et mort. Souvent, les hommes ont associé le premier souffle du nouveau-né au Père, au mystère insaisissable, à ce qui est incompréhensible. Mais je suis bien compréhensible. Si tu inspires la sagesse, les commandements divins, la communion universelle des mondes, Dieu air, l'air des hauteurs, l'air originel, alors tu prends vie. Je suis la vie et la résurrection dans l'homme. Olivier Manitara demande à l'archange Raphaël. Ô mon père Raphaël, toi qui es un archange, toi qui fais partie du monde divin, pourquoi veux-tu que nous accomplissions un culte pour t'honorer dans le monde des hommes? L'archange Raphaël répondit. Je veux exister dans le monde des hommes pour que la terre demeure vivante et qu'il y ait encore un chemin ouvert pour les âmes. Comme tu le sais, le danger pour le monde divin est de chuter. Je ne parle pas du risque de devenir démoniaque, mais d'être coupé de ses ressources supérieures, et donc de ne plus être vivant que dans la pensée des hommes, leurs concepts et leurs croyances. Si cela arrivait, plus aucun homme ne pourrait avoir accès au monde divin réel. Les hommes continueraient à prier, à croire, à vouloir, mais s'adresseraient à un monde lui-même séparé du divin. Ainsi, ils ne dépasseraient plus leur monde. Ils y seraient totalement enfermés. Il n'y aurait plus de souffle, de respiration, unissant le monde des hommes au monde divin. Les archanges ne veulent pas abandonner la terre. Ils veulent continuer à vivre dans le monde de la création. Aujourd'hui, l'humanité atteint une limite. touche le fond. Soit elle remonte, soit la terre s'ouvre sous ses pieds et les hommes tombent dans l'abîme. Si les hommes veulent réellement remonter, ils doivent pouvoir s'appuyer sur quelque chose pour trouver une force, prendre un élan. Cet élan viendra de la célébration des cultes des éléments. C'est pour cette raison que je te parle d'une nouvelle humanité. Les cultes des quatre éléments sont réellement le corps, la présence des archanges sur la terre, comme l'ADN qui est caché, invisible, mais qui pourtant est l'homme. À partir de l'ADN, on peut reconstituer l'homme. Ainsi, le culte de l'élément est l'ADN de l'archange. Si tu regardes un ADN au microscope, tu ne verras que lui et pas l'entièreté de l'être. Mais si tu prends du recul, tu verras des cellules qui s'assemblent pour former des organes, qui eux-mêmes constituent un corps, animés par des sens, une intelligence et ainsi de suite. Ainsi, de l'ADN, tu en arrives au plus grand mystère de l'esprit. Il en est de même pour les cultes des éléments. Si tu ne regardes que le côté mortel, tu ne verras que des cultes. Mais si tu regardes le côté vivant, tu percevras la grande présence du monde divin dans tous les mondes. À travers l'homme, les archanges veulent être présents jusque dans le monde de la mort, parce que la terre va s'ouvrir, non pas physiquement, mais dans une grande transformation. L'humanité va connaître un profond déracinement, une perte d'identité. Elle ne saura plus à quoi se raccrocher puisque l'homme d'aujourd'hui n'est plus rattaché à aucun principe supérieur vivant. Il n'est relié qu'à des besoins du corps physique, qu'à des choses mortelles qui ne survivront pas à sa mort. Les cultes des quatre éléments et tout ce qui s'y rattache permettront à ceux qui se seront fait des corps, des organes subtils, de se raccrocher à un autre monde, de poser leurs pieds sur une terre et de garder le cap. Ils ne seront pas totalement déstabilisés et pourront résister aux influences pour continuer d'avancer. Ils se raccrocheront à la ronde des archanges, au feu de Michaël, au souffle de Raphaël, à l'eau de Gabriel et à la terre d'Uriel. Ils recevront ainsi la sagesse et la bénédiction des archanges qui protègent leur chemin de vérité, leur véritable destinée. Olivier Manitara demande à l'archange Raphaël : Ô mon père Raphaël, nous vivons une période sombre de l'histoire de l'humanité. Comme nous l'avons déjà fait par le passé, nous devons quitter le monde de l'esclavage et traverser les eaux de l'inconscience pour atteindre la terre promise. Le message que tu veux nous transmettre à travers ton culte sacré est-il lié à cette histoire de Moïse ? L'archange répondit : Lorsque mon fils Moïse est allé se présenter devant Pharaon, lui reprochant d'avoir enchaîné les âmes des hommes et d'avoir ainsi trahi le Père, il était porteur de la parole, du souffle et de la volonté des archanges. Moïse a dit à Pharaon qu'il n'était plus un fils de Dieu parce qu'il n'accomplissait plus la volonté des dieux et du Père. Il lui a montré qu'il s'était mis au service du monde des hommes et était devenu un dieu des hommes, un roi, un président, qu'il n'était plus un serviteur du Père. Ainsi, il y a eu une sorte d'affrontement entre deux mondes à travers Moïse, représentant du monde divin, et le pharaon usurpateur, représentant du monde des hommes, coupé de la volonté du monde divin. Moïse a révélé que les âmes étaient en peine, qu'elles criaient, appelaient le prophète, la lumière divine, qu'elles étaient en train d'être enterrées vivantes. Moïse a supplié le pharaon usurpateur de libérer ses âmes comme ses prédécesseurs l'auraient fait, mais ce dernier a refusé, car pour les libérer, il devait renoncer à son pouvoir, sacrifier sa volonté et sa gloire personnelle. Le pharaon usurpateur a par contre accepté de laisser partir Moïse avec les âmes les plus avancées, les plus aptes à cheminer vers la lumière. Il pensait ainsi nettoyer son royaume de tous ceux qui auraient pu contester sa fausse royauté. Moïse sortit d'Égypte avec les âmes élues et toute la sagesse, toutes les divinités qui jadis faisaient la gloire de Pharaon. L'exode fut difficile et beaucoup d'hommes et de femmes en sont morts. Quitter la vie que Pharaon proposait était dur, car ils y étaient habitués. Beaucoup ne croyaient pas en un avenir, en une terre nouvelle. Ils espéraient cette terre, mais en réalité, toute leur vie était associée avec le royaume et le mode de vie du pharaon usurpateur. Ils avaient accepté cet état de choses et devaient renoncer à cette vie pour suivre Moïse. Mais leur âme n'était pas totalement enterrée et leur parlait, leur montrait le chemin à suivre. Ils sentaient que leur être intérieur était en souffrance et se serait éteint s'ils étaient restés dans cette Égypte déchue. Seul Moïse, en tant que pharaon légitime et représentant du monde divin, pouvait leur permettre de vivre réellement, de respirer avec leur âme et les mondes supérieurs. Seuls ceux qui avaient été éduqués et formés par le savoir divin ont réellement accepté et compris la parole de Moïse. Ils n'ont pas été passifs, mais sont devenus actifs, vivant et agissant à ses côtés pour marcher vers la nouvelle terre. Les autres étaient vides de savoir divin. Ils n'avaient pas étudié et ne s'étaient pas formés un corps de l'enseignement, un corps de sagesse et d'immortalité. Telle est la réalité que je veux te montrer et révéler aux Esséniens d'aujourd'hui. Tous étaient pourtant des êtres profondément religieux et dévoués au monde divin. Ils étaient des pratiquants, des êtres de philosophie quotidienne, des pieux, des croyants. C'est pour cela qu'ils ont suivi Moïse. Mais ce n'était pas suffisant pour traverser l'épreuve de la réalité. Cette terre promise, vous la cherchez encore. Vous êtes encore en exil. Et si aujourd'hui la nation essénienne pose les cultes des quatre éléments et les quatre sceaux des archanges sur la terre, tout ce qui a été initié et accompli par Moïse trouvera son aboutissement. Ce qui a manqué à toutes ces âmes mortes en chemin, c'est de croire en l'existence concrète d'une nouvelle terre et non en celle d'un ciel hypothétique, lointain et désincarné. Seuls ceux qui avaient réellement renoncé à leur vie terrestre pour accomplir les commandements divins pouvaient comprendre et n'avaient aucun doute. Cette histoire montre la nécessité absolue d'être éduqué dans la sagesse essénienne et d'étudier l'enseignement et les commandements divins jusqu'à s'en constituer un corps. Sans cela, il n'y a plus rien, réellement plus rien, lorsque vient le moment de passer dans l'autre monde. Croire en l'intelligence et la sagesse des dieux sans y engager sa vie réelle ne sert à rien. Formez un corps collectif d'études de la sagesse essénienne. Pratiquez la dévotion envers le savoir et la lumière de la juste compréhension. Pratiquez les rites sacrés qui renforcent la lumière du savoir dans le monde. Et vivez votre vie quotidienne en harmonie avec ce que vous savez être vrai, juste, bon et noble. Mon fils, tu as aujourd'hui la même mission que Moïse. Tu dois guider le peuple de Dieu vers la terre promise, la terre d'Ouriel. Ton rôle n'est pas de sauver des corps, mais des âmes. Pour cela, tu as la même alliance que Moïse. Les âmes appartiennent à un monde supérieur, mais elles ont besoin de corps, un minimum structuré dans la sagesse afin de pouvoir s'accomplir lors de leur passage sur la terre. Tes élèves doivent donc préparer leur corps par l'étude de la sagesse, la dévotion, la pratique des rites sacrés et la vie quotidienne conforme à la sagesse. Tu dois démontrer que le pharaon usurpateur d'aujourd'hui, qu'il soit un politicien ou un religieux, est en train de tuer les âmes des hommes. Tu dois parler aux hommes d'une nouvelle terre. Cette nouvelle terre va se présenter bientôt devant toi et devant les Esséniens. Tu dois donc leur dire de se préparer pour le voyage.